En 2015, l'association Blois-Weimar fêtait ses 20 ans de jumelage. Séminaires, jobs d'été pour les jeunes ou encore voyages thématiques dans la plus petite ville culturelle d'Europe, voilà quelques-unes des activités proposées par les membres de cette dynamique et germanophile association que vont nous présenter Isabelle, Eugène et Jean-Luc. Vous entendrez également des extraits de la conférence proposée par la musicologue Élise Petit, organisée au campus de la CCI par l'association de jumelage le mois dernier, conférence ayant pour titre « Musique interdite et musique officielle sous le régime nazi », que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le site de Studio Zef.
Les jumelages entre villes se sont installés après le dernier conflit mondial, en l'occurrence dans les années 50. Les premiers jumelages ont donc eu lieu il y a 60 ans. Et Blois n'est pas resté neutre là-dessus. Et on est jumelé avec quelques villes allemandes, anglaises et d'autres. Et Weimar, dont on va parler plus précisément, hein, qui date de 1981. Pour un premier partenariat et une concrétisation en 92.
Eugène, est-ce que vous pouvez nous préciser depuis combien de temps vous êtes président, c'est ça, de l'association ?
Alors ça, je ne sais pas s'il faut le dire, mais je suis à l'association, bien sûr, presque depuis le début, depuis les années 92-93, parce que j'aimais la chose allemande, je parle l'allemand, disons que c'était facile.
Nous avons organisé un voyage assez important avec une cinquantaine de personnes, pour une première approche, une découverte culturelle de la ville, visite des sites principaux, des musées. Le dernier voyage que nous avons organisé tout récemment tournait un peu plus autour de la musique. Et nous étions d'ailleurs partis avec l'école de musique de Blois, dirigée par Jean-Claude Dodin, qui nous a pris dans son bus avec les élèves qui allaient pour un concert tripartite entre Blois, Zamosc et Weimar. Et nous, en tant que voyageurs, nous avons eu l'occasion d'écouter un certain nombre de concerts sur place de très grande qualité.
On est allé avec l'école de musique, l'école de musique de Blois est à un contact depuis 20 ans avec une école de musique de Weimar. Mais à Weimar, il y a trois écoles de musique, il y a trois conservatoires avec des très hauts niveaux. Et le partenariat avec l'école de musique de Blois est assez permanent, que ce soit pour des instrumentistes, que ce soit pour des groupes, que ce soit pour des chorales. Et ça fonctionne déjà depuis une bonne vingtaine d'années. Jean-Claude Dodin, directeur de l'école, avait mis en place avec le directeur de l'école de musique de Weimar, M. Gross, un jeune orchestre symphonique, c'est-à-dire 45 musiciens qui venaient 15 de Blois, 15 de Weimar et 15 de Zamosc. Zamosc, c'est la Pologne orientale, et c'est jumelé avec Weimar aussi, comme nous. Enfin, c'est une autre histoire. Et ces trois écoles ont fait un partenariat, ils ont fait leur troisième concert la semaine dernière à Weimar.
Isabelle, vous avez participé à ce voyage ?
La semaine dernière, nous étions à Weimar avec les musiciens, en effet, et c'était très agréable. À travers la ville, on est ailleurs. On vit les choses différemment. L'air est différent, l'ambiance est différente.
Vous recevez en général un accueil excellent, j'imagine ?
Pour ma part, il était plus qu'excellent parce que j'ai noué des relations l'année dernière avec un couple qui m'a reçu et fort bien reçu.
Alors Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous parler donc d'un projet par rapport à la langue allemande, assez original, je dois dire ?
Alors effectivement, c'est peut-être un petit peu à contre-courant aujourd'hui de ce que l'on entend par rapport à l'enseignement de l'allemand. Mais nous avons retenu lors de notre dernière assemblée générale une proposition d'un des membres qui souhaiterait pouvoir mettre en place un enseignement pour les tout-petits avec un enseignement ludique de la langue allemande auprès des 4-7 ans sous forme de jeux, sous forme d'ateliers qui reste encore à créer puisque nous n'avons pas ni le lieu ni l'encadrement, mais nous réfléchissons à la façon de mettre ça en place le plus rapidement sur l'année. J'en ai parlé deux secondes en disant que c'était un petit peu à contre-courant de l'ère du temps, puisqu'on entend parler partout de réduction de cours ou voire de suppression de la langue allemande dans les lycées. Nous, ça ne nous semble pas la voie obligatoire pour la suite. Et je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront intéressés par l'étude, la lecture, la culture allemande.
Elisabeth, j'ai cru comprendre que vous venez d'arriver à l'association. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ?
Oui, c'est un concours de circonstances. Chaque semaine, je fais avec un groupe des conversations en allemand. Et nous nous sommes joints à la fête de Saint-Nicolas de l'association en fin d'année. C'est comme ça que j'ai abordé l'association. J'ai adhéré il y a 2 ans maintenant.
Et Jean-Luc, depuis combien de temps êtes-vous à l'association ?
Depuis 2 ans aussi. Donc depuis que j'ai cessé mon activité professionnelle, je consacre beaucoup plus de temps à l'organisation, à l'aide de mon président préféré. Dans cette association, bien agréable.
Il n'y a que des bénévoles dans cette association ?
Uniquement, oui. Bon.
Uniquement. Oui. Uniquement des bénévoles. Oui, uniquement. Le conseil d'administration, le bureau est composé de combien de membres ?
Ça tombe bien, on vient de le réélire. Le bureau se compose, d'après nos statuts, de 12 membres, plus deux membres d'officiels qui sont le maire et la responsable des jumelages.
Alors, Weimar, où est-ce que c'est ?
Donc on peut le situer quand même plus facilement par rapport à Blois, à 1000 km à l'est, est-nord-est, et à 300 km de Berlin.
Anciennement République démocratique allemande. Nos activités avec Weimar concernent surtout des activités à caractère culturel, d'échange pour les jeunes, à découverte du pays, à bien sûr à recevoir aussi nos amis allemands, dans le cadre d'emplois ou de stages d'été. Une activité culturelle importante entre les associations, les chorales par exemple, ils sont déjà 5 ou 6 qui sont allés à Weimar, comme on en a reçu 5 ou 6. Le pourquoi de tout ça, c'est que Weimar a une étiquette, une très belle étiquette, c'est une capitale culturelle allemande, donc on y trouve nos grands humanistes, nos grands auteurs et des grands musiciens.
Mais elle se caractérise particulièrement pour ça, parce qu'on peut imaginer en Allemagne que voilà, c'est pas la seule capitale culturelle.
Celle-ci fait malgré tout référence, ne serait-ce que par la Hochschule für Musik de Franz Liszt, qui regroupe les jeunes talents du monde entier.
Quand vous dites capitale culturelle, toute discipline, entre guillemets, tout art confondu, ou particulièrement la musique ?
Particulièrement la musique et puis la référence au Bauhaus avec l'université liée.
J'ajouterais, quand on parle de l'allemand, on parle de la langue de Goethe. Et il a amené là-bas d'autres compositeurs, d'autres écrivains, Schiller, Herder, Wieland. Et derrière, il y a une autre époque musicale aussi qui a fait qu'effectivement, on va se retrouver avec cette école de musique, une Maria Pavlovna, une grande duchesse qui, elle, a fait venir beaucoup de musiciens. Et pour ne parler que de Liszt, de Bach, qui était chef de chœur à Weimar. Autres musiciens, Richard Strauss, Schumann aussi était là-bas.
D'accord. Elisabeth.
Une petite anecdote que j'ai entendue lors de ma dernière visite à Weimar. Nous avions pris un guide à travers la ville et ce guide nous a dit, partout on dit c'était avant ou après Jésus-Christ, ici on dit c'était avant ou après Goethe.
Tout tourne autour de ces deux personnages principaux que l'on retrouve sur la place du théâtre de Weimar.
D'abord, pour comprendre quelque chose à propos du Troisième Reich, surtout pour les politiques en matière de culture et de musique, il faut parler de 3 protagonistes. Alors forcément, le premier, c'est Hitler, ça, tout le monde le connaît. Il avait déjà fondé la SA, donc ce qui était un peu une milice service d'ordre à l'époque, qui chahutait déjà les concerts de compositeurs que les nazis jugeaient dégénérés, qui empêchaient des concerts d'avoir lieu. Ça, c'était dès les années 20. Alors, il y a vraiment 2 personnages qui sont importants aux côtés de Hitler. Ce sont 2 personnages qui se détestent. Le premier, qui a une belle tête de vainqueur là, sur la photo que j'ai choisie, c'est Alfred Rosenberg, il a créé en 1929 une ligue culturelle qu'il a appelée Kampfbund für Deutsche Kultur, donc une ligue de combat pour la culture allemande, qui comptait notamment parmi ses partisans la belle-fille de Wagner, Winfried Wagner. Et l'autre tête pensante du régime, c'est Joseph Goebbels, qui va devenir le ministre de la propagande, qui déteste Rosenberg, et c'est aussi grâce à cette présentation que vous allez comprendre comment les politiques s'articulent sous le Troisième Reich, parce qu'en fait, il y a un conflit permanent entre ces deux personnages.
On a commencé cette année avec donc, cette conférence d'Élise Petit, qui était déjà venue nous parler des années folles de Berlin, des années 1920. C'était les cabarettistes, etc., les chansonniers. Et elle avait à son programme un dossier, les musiques interdites et officielles. Donc on pensait que c'était, comme on la connaissait, une bonne référence, et on a fait une... Vous l'avez enregistré, vous avez l'occasion de l'écouter.
Ende die Geschlechterreihen, reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Mein Hunger und Vergessen, vorwärts, nicht vergessen.
Alors, on est toujours sur une esthétique assez simple et en général très efficace. Quand on entend ces Kampfleader, on a toujours envie au moins de taper du pied ou de bouger la tête. En plus, c'est Eisler qui les compose, c'est un excellent compositeur, donc c'est bien fait, c'est du beau travail. Ces sympathies communistes, on les entend systématiquement par des couleurs de musique populaire russe, ou quand on entend les chœurs de l'armée rouge, on pense aussi à ce type de musique. Donc ça, c'est sa façon aussi de montrer sa sympathie avec les idées soviétiques.
On a, sur le plan culturel, on avait aussi ce printemps une conférence qu'on reproduira. Madame de Staël et Madame Olympe de Gouges, deux révolutionnaires, deux femmes, c'est une autre conférence qu'on a aussi proposée. Ça, c'est l'aspect un peu culturel de nos activités ici. Après, il y a nos activités jeunes, job et voyage à Weimar.
Pour préparer donc le concert du 11 mai, qui annonce ce concert avec Pierre Morabia, qui va nous faire un concert commenté au piano sur l'amitié de Liszt et Borodine, en reprenant le thème de Weimar au cœur des échanges artistiques. Je pense que c'est à la fois un concert et une conférence très intéressante. Nous avons déjà eu l'occasion d'assister à ce genre de présentation commentée d'un concert qui a enthousiasmé le public présent.
On a de tout temps et depuis toujours favorisé un peu les échanges des scolaires, la possibilité des scolaires, des germanistes essentiellement, d'aller à Weimar ou de recevoir de jeunes weimariens. On verra que ce n'est pas toujours possible sur le niveau scolaire parce que c'est loin, c'est cher. Notre objectif depuis 20 ans, on propose tous les étés des jobs d'été, des stages ou des emplois saisonniers à Weimar. C'est à l'identique aussi à Weimar et à Blois, donc, et on échange un petit peu ces jeunes.
Et concrètement, les échanges se font comment, pratiquement?
Le jeune français reçoit au mois d'août, juillet, le petit Allemand qui travaille à Blois, et le 31 juillet, ils partent ensemble à Weimar, ils s'hébergent, et le petit français, il trouve là-bas un job dans une pâtisserie, dans un restaurant, à la mairie, ou à l'office de tourisme, ou dans le Kunstfest. Là, c'est ce qu'on a appelé les échanges de job d'été. C'est soutenu par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc ça permet, on a une petite subside. C'est rarement payé, à Blois comme à Weimar, c'est un minima. À ça vient maintenant s'ajouter les stages professionnels. Le lycée hôtelier, depuis 5-6 ans, envoie 4 ou 5 jeunes à Weimar pendant 4 mois ou 2 mois. Et ce sont vraiment des stages professionnels, de cuisine, hôtellerie. On a la chance d'avoir un excellent réseau sur place, des hôtels, des grands hôtels qui peuvent recevoir. J'ouvre une petite parenthèse. Weimar, c'est quand même 4 millions de visiteurs par an. Quand vous pensez au château de Blois à 380 000, c'est quand même un peu différent. Donc ils ont beaucoup d'hôtellerie, ils ont beaucoup de besoins en été. Et donc ça fonctionne bien. À l'inverse, nous on reçoit à Blois, grâce à la mairie aussi, les emplois saisonniers du château, des services de surveillance des salles. Et ça, ça fonctionne bien aussi. Et sur le programme est fait pour cette année. On a au programme, on s'occupe actuellement de 7 ou 8 jeunes ou 9 jeunes qui soit viennent ou partent. S'il y a des jeunes qui ont envie de partir, ce qu'ils le disent surtout.
Oui. Hein,
il faut un peu maîtriser quand même la langue allemande.
Quelque chose de très pratique, est-ce que vous pouvez rappeler tout simplement vos coordonnées ?
Donc, le siège social de l'association est au 1, place de la Grève, 41 000 Blois, et joignable par une adresse mail, blois.weimar9@orange.fr.
Furtwängler a régulièrement dirigé les concerts d'anniversaire de Hitler, des fois en essayant de biaiser, en dirigeant la veille et pas le jour même pour dire que c'était pas, enfin bon, bref. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Furtwängler disait à Goebbels, je pense pas que je vais pouvoir, j'ai des obligations, Goebbels disait, c'est pas grave, on a un petit jeune en ce moment qui est super, qui s'appelle Karajan, il va le faire sans problème. Et là, bizarrement, les engagements, finalement, Furtwängler n'avait plus d'engagement, il pouvait assurer les concerts. Ça, c'est quelque chose qui va être très utilisé par Goebbels, c'est cette espèce de concurrence. Donc, en fait, il monte un peu tout un personnage autour de ce jeune Karajan qui, lui, adhère deux fois au parti nazi. Lui, il est vraiment, il est motivé pour avoir du travail, on va dire.
Élise Petit, vous êtes agrégée de musique et docteur en histoire de la musique, spécialiste des relations entre musique et politique dans l'Allemagne du XXe siècle, du Troisième Reich à la guerre froide. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos différents travaux et de vos publications?
En fait, je suis musicologue de formation et je m'intéresse à la fois à la musique et à l'histoire. Donc j'ai assez vite bifurqué pour devenir plutôt une historienne de la musique. Et ce qui m'intéresse dans la musique, c'est comprendre les circonstances politiques de sa création. Donc le Troisième Reich est un terrain d'étude absolument extraordinaire, et aussi l'Allemagne occupée après la guerre, pendant la guerre froide. On a vraiment là de quoi faire des recherches pendant des décennies. Mais je travaille beaucoup sur la musique dans les camps, parce qu'on ne connaît aujourd'hui que les musiques de résistance. On parle toujours de la musique qui a permis de résister dans les camps, et on oublie que la musique était diffusée, jouée, essentiellement pour accompagner les départs au travail, les exécutions. Donc elle avait un rôle vraiment destructeur sur les prisonniers. Et c'est vraiment important de rechercher là-dessus. Donc j'ai fait beaucoup de recherches dans les archives. Et là, je me suis même rendu compte, il n'y a pas si longtemps, que le régime avait équipé les camps d'instruments pour les SS, pour qu'eux aussi puissent jouer de la musique. Donc il y a vraiment des vraies politiques musicales dans le système concentrationnaire qui sont très intéressantes. Et je travaille sur l'après-guerre, donc le contexte de la guerre froide aussi. Alors le livre qu'on a écrit donc avec Bruno Giner, il s'appelle « Entartete Musik », Musiques interdites sous le Troisième Reich. Donc on le trouve aussi avec ce titre, musique au pluriel. C'est chez Bleu Nuit. C'est un ouvrage grand public. J'ai aussi publié, alors là c'est un recueil d'articles sur la création musicale dans l'Allemagne occupée qui s'appelle La création artistique en Allemagne occupée, enjeux esthétiques et politiques. Donc là c'est un recueil d'articles sur tous les arts, qui est aussi très intéressant pour percevoir les enjeux. Et puis il y a l'excellent livre, le catalogue de l'exposition Le Troisième Reich et la musique, qui est un incontournable. Et puis il y a aussi le livre que Bruno Giner a écrit tout seul, qui s'appelle Survivre et mourir en musique dans les camps nazis.
Merci aux membres de l'association Blois-Weimar. Je vous rappelle que la conférence d'Élise Petit est disponible intégralement sur le site de la radio.